Yeah. ce nom de victoire ce matin. Toi qui es présent au milieu de ton peuple ce matin. Et nous saisissons le mystère de ta présence par notre foi au nom de Jésus-Christ. Ce que tu l'as dit, Seigneur. Qu'importe ce que je peux ressentir dans mon corps, qu'importe ce que ton peuple peut ressentir du point de vue de tes émotions, ce que tu as dit, tu l'as dit. Il y a deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis présent. Toi, le Dieu qui est présent, nous te bénissons ce matin. C'est toi qui es honoré, c'est toi qui es magnifié, c'est toi qui es célébré, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Seigneur, reçois nos hommages, reçois notre gratitude ce matin. Reçois, Seigneur, de toute notre considération. Père éternel, je ne suis qu'un serviteur inutile. Mais je te demande une seule chose ce matin. De me rendre utile pour un homme et pour une femme qui a quitté sa maison et qui s'est disposé à venir écouter non pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu qui parle à travers lui. Alors Seigneur, parle des serviteurs, écoute ce matin, et que Jésus-Christ seul soit glorifié, soit honoré, soit magnifié et soit acclamé par ton peuple. L'instrumental va passer légèrement. J'aimerais que tu dises à ton voisin que bon on voit ce matin. Dis-lui que le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Et dis-lui enfin, ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Parce que sûrement le Seigneur va parler à quelqu'un ce matin. C'est un honneur, c'est un privilège pour moi de pouvoir clôturer cette première édition. C'est également une très grande responsabilité. Et je prie le Saint-Esprit de pouvoir permettre à ce que la parole de Christ soit véritablement annoncée avec toute son autorité ce matin, Seigneur. Alléluia. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur d'être avec cette grande famille de la Côte d'Ivoire. Après, comme je le partageais à vos responsables, après 7 années, parce que mon dernier voyage missionnaire dans cette nation remonte à 2006, et c'est là que j'ai aimé votre pays, et c'est là que Dieu a permis que je revienne de nouveau. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, ce matin, nous sommes en train de clôturer ce thème merveilleux, être libéré du péché pour entrer dans sa bénédiction. Le message que je vais donner ce matin, il est important. Pourquoi? Parce que après cette convention, le message que je vais donner ce matin, c'est pour après cette convention. Parce que après cette convention, l'ennemi de nos âmes, je vous assure, à l'image des Philistins, viendra vous voir. Viendra vous visiter pour vous poser une question. Est-ce que réellement tu es libre? Est-ce que réellement tout ce que tu as entendu c'est vrai pour toi? Parce que nous sommes dans l'euphorie, nous sommes dans l'effervescence de tout ce que nous avons entendu. Mais lui, il reviendra comme il est venu vers Ève pour dire: Dieu a-t-il réellement dit? Et le message que je vais vous donner ce matin, c'est pour répondre justement à cette accusation de l'ennemi. Parce que lorsqu'il viendra, souviens-toi de ce que tu vas entendre ce matin. Parce que lorsqu'il te dira, est-ce que c'est réel? Est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que tu es réellement dans ta bénédiction? Tu sauras comment répondre à l'ennemi de nos âmes. Alléluia.
Amen.
Donc, je vais en deux parties parler ce matin par rapport à notre thème, être libre du péché. Je vais donner certaines informations par rapport à cette première partie. Pour entrer dans sa bénédiction, je vais donner certaines informations. Je vais ajouter de nouveau une pierre à l'édification de l'Église ce matin. Alléluia.
Amen.
Alors, sans plus tarder, allons dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 8. Très beau texte des Écritures que j'aime, que j'affectionne énormément. Jean, chapitre 8, verset 30.
Jean 8.
30 à 36. On va écouter la lecture de la parole.
Verset 30 à 36.
La Bible dit ceci. Comme Jésus parlait ici, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs, il avait cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité.
Vous connaîtrez la vérité.
Et la vérité vous affranchira.
La vérité vous affranchira. Continue.
Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Est-ce qu'on peut acclamer cette
parole? Amen. Fois?
J'aimerais que tu dises à ton voisin, si donc le fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Nous sommes en train de parler être libre du péché, mais comment être libre du péché? Qui libère du péché? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une philosophie? La Bible répond, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Celui qui libère du péché, c'est un homme. L'homme d'Ésaïe 53.
Amen.
Le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth. C'est lui qui libère. C'est lui qui affranchit. Lorsque il est parti à la croix, il est parti régler la question du péché. Si le Fils vous libère, vous serez. La Bible dit, vous vous rendez compte, la parole de Dieu ne dit pas, si le Fils vous affranchit, vous serez libre. La parole de Dieu dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce qu'on peut avoir l'impression d'être libre, alors qu'en réalité, on ne l'est pas.
Amen. Yes.
On peut avoir l'impression d'être libre lorsque on a un bon poste dans la société. Lorsque tout le monde parle du bien de nous. Lorsqu'on a certains biens, certains avoirs. Mais la vraie liberté ne consiste pas dans ces choses-là. Parce qu'on peut avoir ces choses-là et être esclave et être malheureux.
Alléluia.
Amen.
La vraie liberté, c'est celle que Jésus-Christ de Nazareth donne. Amen. Et il vient te libérer de la chose la plus fondamentale. Il vient te libérer d'avoir du péché.
Amen.
Parce que son nom même signifie l'Éternel qui sauve.
Amen.
Et lorsque l'ange est venu parler à Marie, il dit que c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Il n'a pas dit que cet enfant-là, le sauveur, va les arracher de la main des Romains. Pourtant, ils étaient sous domination romaine. Mais lorsque Jésus est venu, c'était pas pour le confort matériel, social d'Israël. Mais il est venu libérer le peuple du péché. Parce que le péché, c'est ce qui met une séparation entre Dieu et l'homme. Si la question du péché n'est pas traitée, toutes les autres choses, ça ne sert absolument à rien. C'est pourquoi nous mettons notre foi au Fils. Et je vous ai dit il y a deux jours, ce qui sauve un homme, ce n'est pas Jésus qui marche sur les eaux. Ce n'est pas le Jésus qui purifie les lépreux qui sauve. Ce n'est pas ce Jésus-là. C'est Jésus crucifié. C'est Jésus crucifié qui sauve. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent.
Amen.
Or, le salut est passé par Jésus à travers quelqu'un. Vous vous rendez compte? Il est né, fils de Dieu, Dieu. Je me suis toujours posé la question. Il dit, mais Seigneur, lorsque l'ange Gabriel est venu voir Marie pour annoncer cette bonne nouvelle, vous vous rendez compte, et on verra ça dans la deuxième partie de mon message, vous vous rendez compte que c'est 30 ans après, la parole a été annoncée, la parole a été proclamée, la semence a été plantée, mais elle s'est manifestée 30 ans après. Dieu était parmi les hommes, Emmanuel, mais il n'a rien fait. Mais pourquoi Dieu a laissé 30 ans alors que le péché était là? Les gens souffraient, les gens étaient malades. Mais pourquoi il a laissé 30 ans? Il était parmi les hommes. Il a grandi. Il a joué comme tous les enfants. Mais il n'a rien fait. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une différence entre la présence de Dieu et la manifestation de Dieu.
Amen.
Dieu peut être présent, mais il ne se manifeste pas.
Amen.
C'est ça le problème de l'arche de l'alliance qu'on a entendu dans cette conférence-là. L'arche était présent au milieu du peuple. La gloire de Dieu était là. Mais malgré la présence de l'arche, ils ont été battus.
Oh yes.
Dieu était là, mais Dieu n'a pas agi. À cause de quoi? Mais à cause du péché.
Oh yes.
La présence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu.
Amen. Amen.
Il est là. Mais dans la manifestation de Dieu, c'est autre chose. Ce dont l'Église a besoin, de vous à moi, en vérité, ce dont l'Église a besoin, ce dont toi tu as besoin, est-ce que c'est de la présence de Dieu? Là, je suis en train de parler à ceux qui sont réellement nés de Dieu. Est-ce que un enfant de Dieu, ce dont nous avons besoin, est-ce que c'est de sa présence ou de sa manifestation? Parce que Dieu est déjà en nous. Par le Saint-Esprit.
Amen. Yes.
Le problème, ce n'est pas la présence de Dieu en toi. C'est comment Dieu doit se déployer. Comment Dieu va agir. Comment Dieu va se manifester à travers ta vie.
Amen.
C'est ça la vraie problématique. C'est pas Seigneur, viens dans ma vie. Oui, il va venir et après.
Amen.
Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce que par la foi, vous allez saisir la grâce de Dieu. C'est lui qui sauve. Le Fils incarne la grâce. Mais pour que la grâce ait tout son sens, il faut qu'il y ait la condamnation. La grâce, pour qu'elle ait tout son sens, il faut qu'il y ait la condamnation. Être libéré, ça veut dire qu'on était esclave. Être libéré, ça veut dire que nous étions en prison. Celui qui est en prison, c'est suite à une condamnation. La grâce de Dieu n'a tout son sens que lorsqu'il y a une condamnation. Parce qu'on n'a jamais gracié un innocent. La grâce, c'est pour les coupables.
Amen.
Pour les hommes et les femmes qui sont conscients de leur misère et qui disent, Seigneur, qui me délivrera? Je suis perdu. Ma vie n'a pas de sens. C'est à ce moment-là que la grâce de Dieu, elle prend tout son sens dans ta vie.
Amen.
Oh yes.
Mais cette grâce, tu tu ne peux la saisir que par la foi. Après cette convention, vous allez tous et toutes rentrer dans le combat de la foi. Parce que le bon combat de la foi, c'est le combat contre le mensonge du diable. C'est le combat où vous allez devoir vous tenir sur les paroles, les promesses que vous avez reçues de Dieu. Et vous allez dire à Satan, arrière de moi Satan, ce que Dieu a dit, il le fera. Le combat de la foi, c'est le combat où tu vas tenir debout sur les promesses de Dieu jusqu'à ce que la vérité triomphe sur le mensonge. Parce que la force du diable, c'est à travers le mensonge. Lorsque Satan arrive à te faire croire un mensonge, lorsque tu acceptes un mensonge du diable, c'est terminé pour toi, tu lui donnes le droit et le pouvoir de te dominer. C'est le combat où tu sais ce que Dieu a dit à ton sujet, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les événements, quelles que soient les malédictions, tu sais que ce que Dieu a dit, il l'a dit. Et que c'est sa parole qui s'accomplira. Si le Fils vous a branché, vous serez réellement libre. Donc quand le diable il arrive avec tout son mensonge, il faut savoir comment tenir devant lui. La Bible dit quoi? Résistez-le avec une foi. Qu'est-ce qui renferme la foi de quelqu'un? Qu'est-ce qui renferme la foi? La parole. Pourquoi? Parce que c'est cette même parole qui fait naître la foi. La foi vient. La foi vient. La foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Souvenez-vous de cette femme pendant 12 ans. Elle a souffert. Elle a vendu tous ses biens. Elle a entendu parler qu'il y avait des médecins, des docteurs, des professeurs, des spécialistes qui pouvaient apporter la solution. Mais lorsqu'elle est passée vers ces personnes-là, elle s'est appauvrie. Elle n'avait plus rien. Mais la Bible déclare un jour, elle a entendu parler de Jésus.
Yes.
Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la foi est née dans son cœur. Et elle a dit, si je pouvais seulement toucher son vêtement, ça c'est la foi. C'est pas le langage normal, hein. Un homme normal ne peut pas penser comme ça. Elle a dit, si je peux toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Elle avait tout perdu, tous ses biens, tout son argent, elle n'avait plus rien. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Tu peux tout perdre, la renommée, la dignité, les biens matériels, même ton poste, mais sache que la foi que tu as en Dieu, c'est tout ce qui reste quand tu as tout perdu. Mais quand tu as tout perdu, la foi que tu as en Dieu, c'est elle qui va générer le miracle de Dieu. La foi, c'est tout ce qui doit te rester quand tu as tout perdu. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, qu'est-ce qu'il veut trouver? En dehors de cela, il dit, la foi. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est pourquoi nous bénissons Dieu, parce qu'en Jésus nous sommes libres. C'est une vérité, hein. Je suis en train de dire que c'est une vérité. Mais le problème, vous savez, c'est que lorsque nous sommes libres et affranchis, nous devons apprendre à marcher dans la liberté. Parce que pour une personne qui pendant des années et des années était esclave, lorsqu'il est affranchi, il faut qu'il apprenne ce que c'est marcher dans la liberté. Nous avons les chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui marchent encore avec une mentalité d'esclave. Vous avez reçu Jésus, nous proclamons les paroles, je suis libre en Jésus, oui, mais là, il faut marcher dans la liberté. Et ça, il faut que tu apprennes. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans Romains 12 que nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Changement de mentalité. Dieu avait un très bon programme. Mais à cause d'une mauvaise manipulation de notre frère Adam, le virus est rentré. Le péché. Le péché est rentré. Et comme tout virus, le péché est venu tout bouleverser. Le péché a renversé l'ordre naturel des choses comme tu les avais prévues. Parce que c'est un virus. Le bon fonctionnement, il n'y avait plus de bon fonctionnement à cause du virus qui est rentré. Mais notre Dieu, dans son amour, c'est pourquoi il faut que tu réalises que Dieu t'aime, je vous assure. Le diable a fait sa rébellion. Dieu l'a chassé. Mais pour Satan, il n'y a pas de voie de salut. Il n'y avait pas une option. Comment Lucifer pourra-t-il être sauvé et pardonné? Mais pour les fils d'Adam,
amen,
pour cela qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et sur notre ressemblance, Dieu a pourvu au salut.
Amen.
Ça veut dire que Dieu t'aime, hein? Tu n'es pas n'importe qui. Dis-le, je ne suis pas n'importe qui. Tape sur ta poitrine, tu n'es pas n'importe qui. Ta valeur ne dépend pas de ce que les hommes disent à ton sujet. Ta valeur ne dépend pas de ce que les gens voient te concernant. Ta valeur dépend de ce que Dieu a déclaré sur ta vie. C'est Dieu qui connaît véritablement ta beauté.
Amen.
Ton importance. C'est lui qui connaît. Si le Fils vous approchait, vous serez réellement libre. Et dans l'amour du Père, il est venu envoyer le Sauveur. Et Jésus est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il n'a pas essayé de faire fonctionner l'ordinateur plein de virus. On va essayer, on va tenter. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu formater tout le disque dur. Parce que si vous ne formatez pas tout le disque dur, dans une machine qui est complètement polluée, les virus vont rester. Mais le formatage va tout détruire pour amener à un nouveau départ. Mais lorsque le disque dur est formaté, Christ est venu. Son sang nous a purifié, nous a lavé, sanctifié, justifié, pardonné. Maintenant, il faut réinstaller les lois du ciel. Il faut réinstaller les lois du ciel pour le bon fonctionnement de la machine. C'est pourquoi on vous dit les chrétiens là, la parole là, c'est ça. Les logiciels de Dieu, tout est là-dedans. Avec le nouveau logiciel, nous apprenons à marcher, à vivre, à parler, à nous comporter comme Dieu. Maintenant, Dieu, encore une fois dans son amour, non seulement les logiciels sont installés, Dieu va installer en nous un antivirus.
Oh yes.
Hey.
Il y a un antivirus. Celui qui est réellement né de Dieu, tu dois savoir que, après, par la foi, accepter Jésus, non seulement tu l'as accepté, tu es sauvé, mais tu as reçu également un antivirus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. De telle sorte que lorsque tu pèches, quand le péché arrive, il t'avertit. Il te met à
esprit qu'il y a un corps étranger qui est rentré dans ta vie.
Maintenant, on fait comment? Ce qui font informatique là. Comme antivirus te dit qu'il y a un virus, tu fais quoi? Il te pose des questions, tu veux supprimer ou pas? On est en quarantaine ou pas? Mais là, c'est une question de décision. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Lorsque le Saint-Esprit te révèle ces choses-là, tu dois choisir. Tu mets en quarantaine ou tu supprimes? Beaucoup de chrétiens mettent en quarantaine. Alors qu'il faut supprimer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, il a dit quoi? Il n'a pas dit entretien. Il a dit faut supprimer. Si le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre.
Amen.
Mais puisqu'il faut marcher dans la liberté, le même esprit, il va conduire, il va t'inspirer, il va te révéler le cœur de Dieu. Vous rendez compte, la Bible dit même vous priez là. Nous ne savons pas prier. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui prie, qui intercède pour nous. Mais ce Saint-Esprit-là, s'il est attristé, parce qu'effectivement, celui qui est né de Dieu ne pêche pas.
Amen.
Parce que l'homme nouveau en Christ, il est saint. L'homme nouveau en Christ, il est juste. Et il prend plaisir à la loi de l'Éternel et à la présence de Dieu. Mais lorsque par décision, par choix, tu cèdes à la tentation, tu te retrouves dans le péché. Par décision. Pas parce que tu n'es pas capable, mais par décision. Tu as fait le mauvais choix. C'est pourquoi il a dit veillez sur vous-même. Mais l'homme nouveau qui est ton toi, il est saint. Il aime la présence de Dieu. Aimer pour notre homme nouveau est naturellement naturel. Ce n'est pas en fait des efforts. Comment je vais aimer? L'homme nouveau, il ne se pose pas la question parce que en lui, il y a l'Esprit de Dieu. Dieu est lui-même amour. Tu dois savoir qu'en Christ Jésus, tu es une nouvelle création. Mais une nouvelle création qui est dans un corps avec une âme. Et c'est là qu'il y a tous les combats de la vie. Maintenant, nous allons voir. Elle dit du péché. Pour rentrer dans sa bénédiction, tu dois savoir. Et nous les avons vu que les bénédictions de Dieu sont soumises à des conditions. Deux conditions. La première condition, c'est ce que nous avons vu durant cette convention avec Deutéronome 28. Celui qui obéit à la parole, qui pratique la parole de Dieu, aura pour conséquence, résultat dans sa vie, la manifestation des bénédictions. Ça, c'est dans Deutéronome 28. Mais dans Éphésiens 1, verset 3, j'aimerais qu'on puisse nous lire cela. On parle encore de bénédiction. Dans Deutéronome, nous sommes sous la loi avec les enfants d'Israël. Certainement que certains peuvent se dire, je ne suis pas concerné, ça c'était Israël. Oui, c'était Israël. Mais nous découvrons ce qui est dit à l'Église. À l'Église, qu'est-ce qui est dit? Éphésiens 1, verset 3. Lisons la parole.
La Bible dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ.
Vous avez entendu?
Il nous a bénis en Christ de toute bénédiction spirituelle. La Bible dit que ces bénédictions spirituelles-là, nous les avons parce que nous sommes en Christ. Celui qui est en Christ est bénéficiaire de bénédictions. Mais celui qui n'est pas en Christ a beau rappeler la parole de Dieu, a beau prier, intercéder, Seigneur, tu as dit, mais si tu n'es pas en Christ, ces paroles ne te concernent pas et tu deviens un voleur.
Parce que les bénédictions, c'est pour les fils. L'héritage, c'est pour les fils. C'est pourquoi il faut au préalable se rassurer, est-ce que réellement tu es fils de Dieu? Ça sert à rien de déranger Dieu. Parce qu'il dit que l'héritage, c'est pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont en Christ sont bénis.
Amen.
C'est pourquoi même si un prophète te dit que tu es béni, il ne fait que rappeler ce qui existe déjà. Parce que même si un prophète ne te dit pas que tu es béni, mais la parole parlée dit que en Christ tu es béni. C'est déjà quelque chose qui est arrêté dans les cieux. Et qui ne dépend pas des hommes ni des pasteurs. C'est sorti de la bouche autorisée de Dieu. C'est Dieu qui a dit. C'est pas le pasteur, c'est Dieu qui a dit. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes bénis. La source de la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. C'est-à-dire, la bénédiction, ce sont les bonnes paroles de Dieu sur ta vie. Or, aujourd'hui, l'erreur que nous commettons, c'est que nous pensons que lorsqu'il y a la voiture, il y a une maison, il y a le mariage, il y a les enfants, à ce moment-là, on dit qu'on est béni. Ça, c'est pas la bénédiction, hein. C'est le résultat de la bénédiction.
Amen.
La bénédiction, c'est la parole qui s'est faite chair dans ce résultat-là.
Amen.
Parce que la parole est d'abord esprit. La parole esprit doit se faire chair. Tu reçois une parole de Dieu, je te bénirai. Mais c'est une parole. Qui a déjà vu une parole? Personne. Mais la parole doit se faire chair. Lorsque tu touches la voiture, lorsque tu rentres dans l'opportunité, lorsque tu as l'enfant, le voyage, le mariage, ça veut dire que la parole que tu avais reçue s'est faite chair.
Amen.
Mais c'est d'abord la parole qui a été libérée sur ta vie. Comment Satan va voler la parole de Dieu? Satan peut voler le résultat de cette parole. Il peut voler ta voiture qu'on t'a donnée. Mais ce qui est sorti de la bouche de Dieu, et on va le voir, ce qui est sorti de la bouche de Dieu, ce qui est sorti de la bouche de Dieu, il va voler ça comment? Ta parole est esprit. Il a dit mes paroles sont esprit et vie. C'est pas le texte, c'est pas le papier. Ça, c'est une retranscription sur le papier de la parole qui est esprit. Le Saint-Esprit a soufflé dans l'esprit de ces hommes. Et ils ont écrit. Mais la source, elle est spirituelle. La bénédiction, c'est d'abord des paroles. Des spirituelles. Paroles esprit. Qui sont sur ta vie. Le problème de la chrétienté aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de courir avec les programmes qu'on voit à droite et à gauche là. Pour venir chercher la bénédiction, je ne sais pas comment. Mais la bénédiction n'est pas un but en soi pour le chrétien.
Amen.
Qui nous a demandé de courir après la bénédiction?
Voilà.
La bénédiction, on ne court pas après. C'est notre héritage.
Amen.
Et ça doit nous accompagner.
Amen.
Si nous respectons les principes de Dieu, principes d'obéissance. Principe de sanctification, principe de soumission à la parole. Tu respectes ces principes-là, tu verras, ça va te suivre.
Amen.
Tu vas jeûner pour chercher bénédiction. Et finalement, dans votre vie chrétienne, ça devient un but. Vous vivez en tant que chrétien pour être béni. C'est parce que vous ne savez pas. Mon peuple périt faute de connaissance.
Amen.
En Christ, vous êtes déjà béni.
Amen.
Vous cherchez quoi d'autre? Tu es déjà béni. Et Satan, il sait, à cause de ton ignorance, il va te dire à l'erreur. Et on va lire la dernière partie de mon message, compris après. Nous sommes dans l'évangile, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, le verset 8 à 11. La bénédiction. Nous parlons de bénédiction ce matin.
Amen.
Là maintenant c'est la bénédiction. Ésaïe 55. Très beau texte. Très belle révélation là-dedans. Et vous allez comprendre comment Dieu fonctionne. Je vous assure, lorsque l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux sur ce passage, j'ai changé ma façon de prier et d'être avec Dieu. L'ignorance est un véritable problème dans la chrétienté aujourd'hui, je vous assure. Ésaïe 55, comment lit la parole? Verset 8.
La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées.
Mes pensées ne sont pas vos pensées.
Et vos voix ne sont pas mes voix.
Vos voix ne sont pas vos voix. On va s'arrêter là. D'entrée de jeu, Dieu précise les choses à son serviteur. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu n'est pas dans la logique humaine. Si tu t'attends à ce que Dieu fasse, que Dieu se comporte comme le veut le rationnel humain, tu seras déçu. C'est pourquoi le Seigneur est obligé déjà de dire lui-même au départ, mes pensées ne sont pas vos pensées.
Yes.
Mes voix ne sont pas vos voix. Je ne suis pas comme vous. Je ne pense pas comme vous.
Il est Dieu. Continue avec Dieu.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie.
Comme la pluie.
Et la neige.
Et la neige.
Descend des cieux.
On s'arrête là. Comme. Comme ici, c'est un comparatif. C'est une illustration. C'est une image. On commence par comme. On veut expliquer une vérité là. Il est en train d'expliquer une vérité. Vous savez, l'homme est limité dans l'intelligence. Les choses spirituelles, nous avons du mal à les capter avec notre intelligence. C'est pourquoi le Seigneur est obligé d'utiliser le langage humain pour que nous puissions capter, saisir les vérités spirituelles. Parce que les vérités spirituelles, tu ne pourras pas, avec ton intelligence, les saisir. C'est pourquoi Dieu parle à travers des images. C'est pourquoi Jésus a parlé à travers des paraboles. Prendre des faits de la vie de tous les jours pour nous expliquer des vérités profondes et importantes qui concernent le royaume de Dieu. Continue la lecture. Reprends comme la pluie.
Comme la pluie et la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole.
Ainsi, donc, il prend une image pour nous expliquer le ainsi. Tout ce qu'il a dit comme image, c'est maintenant le ainsi que nous devons comprendre. Il dit ainsi en est-il de ma parole. Continue.
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
Sort de ma bouche.
Elle ne retourne point à moi.
Elle ne retourne point à moi.
Sans effet.
Sans effet.
Sans avoir exécuté ma volonté.
Sans avoir exécuté ma volonté.
Et accompli mes desseins.
Et accompli mes desseins. Que sa parole soit bénie.
Maintenant, je reviens à ce que le prophète dit. Puisque nous parlons de bénédiction. Je vous ai dit que les bénédictions sont les paroles. Les bonnes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ici, il nous explique trois choses dans ce passage. Il prend une image avec trois informations capitales pour expliquer comment fonctionne sa parole dans nos vies. Parce que quand on dit Dieu, il parle, Dieu va te bénir et tout, c'est de l'abstrait. On a juste une information comme ça, mais on a du mal à mesurer, ça va se passer comment? Et là, le Seigneur, il nous aide à comprendre le processus. Et c'est le processus que je veux qu'on comprenne ce matin, le processus de comment entrer dans la bénédiction.
Amen.
Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. première vérité, on dit sans avoir arrosé. Ça commence d'abord par l'arrosage. La parole quitte le trône de Dieu et elle descend sur terre. Elle descend sur ta vie. On a dit que l'homme a été formé de terre, n'est-ce pas? La parole descend du trône de Dieu et elle vient d'abord toucher ta vie. Tu reçois d'abord la parole. À travers la foi prophétique, à travers les songes, à travers les visions, quel que soit le canal, tu reçois d'abord la parole. Dieu te parle. C'est là que tu dis que Dieu m'a parlé. J'ai reçu la parole de Dieu. J'ai les promesses de Dieu. Oui, ça c'est la partie de l'arrosage. Dieu parle à son serviteur. Dieu parle à sa servante. Dieu libère sa pensée pour ta vie. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est la deuxième phase du processus qui pose un problème pour beaucoup de chrétiens. Et c'est là que Satan vient pour te dire, mais ce que tu as entendu là, est-ce que vraiment Dieu avait parlé? Parce que la deuxième phase, tu ne la perçois pas, tu ne la saisis pas et tu ne comprends pas pourquoi Dieu te fait passer par là. On dit après avoir arrosé, il faut qu'il y ait un autre travail, il faut féconder la terre, le temps de la fécondation.
Oh yes.
Le temps de la fécondation n'est pas bien compris. Non, pas que dire que Dieu a parlé, tout de suite, il faut que je rentre dans mes choses. Non! Le temps de la fécondation, c'est le temps de la préparation. Dieu doit te préparer pour pouvoir rentrer dans ta bénédiction.
Oh yes.
On ne rentre pas comme ça, comme des aventuriers ou bien par accident dans une bénédiction de Dieu. Hein. Si tu rentres dans la bénédiction par accident, il faut se poser la question, est-ce que ça venait même de Dieu? Un enfant de Dieu ne rentre pas par accident dans la bénédiction avec Dieu. Parce que les bénédictions de Dieu, les paroles de Dieu, Dieu doit te faire passer par le temps de la fécondation. C'est là où tu es dans les moments d'épreuve. Dans le secret, Dieu travaille ton cœur. Il brise ton orgueil. Il te fait voir ton insuffisance. Si une période d'emprisonnement, la mort, quelque chose en toi doit mourir. Le temps de la fécondation. Et vous savez, la semence, lorsqu'elle est en terre, pendant qu'il y a un travail de fécondation qui se passe sous la terre, est-ce que les gens voient ce qui se passe? Personne. Qui a déjà assisté comment ça se passe? Comment la graine qui est plantée commence à libérer son potentiel? Qui a déjà vu ça? C'est un travail qui est secret, caché. C'est dans l'ombre. Il n'y a pas de témoin.
Amen.
Tu es seul avec Dieu.
Amen.
Et là, je te pose des questions, Seigneur. Je fais quoi? C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. La tentation vient du diable et elle t'éloignera de Dieu. Elle te poussera à désobéir au Seigneur. Mais l'épreuve te rapproche de Dieu. Parce que dans l'épreuve, tu te poses des questions. Tu interroges Dieu. Tu jeûnes. Tu pries. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais dans la tentation, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Hein? Dans la tentation, ta chair est contente. Ta chair est dans la joie. Parce que tu vas satisfaire ses désirs. Mais dans l'épreuve, quand ça vient de Dieu, tu es en train de réfléchir. Tu es en train de méditer. Tu es dans la présence de Dieu. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Tu es dans sa présence. La vraie épreuve de Dieu, si elle ne t'a même pas dans sa présence, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. Il a dit, je la tirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Dieu souvent nous attire dans les déserts parce qu'il sait que lorsqu'il nous prie là, il nous sépare de certaines choses. Il sait qu'à ce moment-là, tu n'es plus disposé à écouter. que quand tu es dans la distraction, quand tout va bien, à un moment donné, Dieu est obligé de t'arrêter parce qu'il veut parler à ton cœur. Et il a dit, je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur.
Oh yes.
Et un homme qui sort du désert, qui vraiment accomplit les enseignements du désert, lorsqu'il sort là, ce n'est plus le même homme.
Amen.
C'est ça le but de Dieu. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son fils Jésus. Quand on dit devenir, on parle d'un processus. Lorsque tu acceptes Jésus, nous rentrons dans le processus pour devenir véritablement à l'image du Fils. Mais dans ce processus-là, il y a un temps de brisement. Fécondation. Le soir. Et les difficultés. Les problèmes, qu'est-ce qu'il y a avec le Seigneur? Dieu est en train de travailler. Également, pourquoi le temps de fécondation est important? Parce que vous savez, vous ne pouvez pas servir un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais pour connaître Dieu, il faut que les situations soient contraires. Parce que si tout est normal, comment Dieu sera glorifié? Il partage sa gloire avec personne. Le but de Dieu, c'est que nous soyons des vrais adorateurs. Or, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui a expérimenté Dieu. C'est-à-dire qu'un vrai adorateur, lorsqu'il lève les mains vers le ciel, pour dire Seigneur, tu es grand. Il ne dit pas Seigneur, tu es grand par procuration, comme beaucoup nous le faisons. En lisant la Bible, c'est par procuration. Moïse a dit que tu es grand. Nous aussi on dit qu'il est grand. Il n'y a pas de problème, tu ne pêches pas en faisant ainsi. Mais Dieu veut que tu puisses avoir la révélation. Parce que lorsque tu as la révélation, lorsque tu dis Seigneur, tu es grand, c'est parce que dans la révélation, tu as expérimenté la grandeur de Dieu. À ce moment-là, le grand qui sort de ta bouche, c'est pas le grand de celui qui le dit par procuration.
C'est ça.
Toi, tu sais parce que tu as vécu. L'adoration, c'est un vécu.
Yes.
Mais comment tu vivras Dieu si tu n'es pas éprouvé? Dieu permet certaines situations dans nos vies afin qu'il se révèle.
Amen.
Les ténèbres précède toujours la lumière.
Amen.
La lumière n'a de sens que lorsqu'il y a les ténèbres. Si vous allumez la lumière maintenant là, on ne va pas beaucoup apprécier. On ne va pas apprécier parce que déjà c'est éclairé. Mais lorsque tout est sombre, lorsque tout est noir et que même une petite bougie s'allume, alors nous pouvons apprécier la lumière.
Amen. Yes.
Dieu permet des situations dans nos vies comme ça, des soirs. Vous avez remarqué dans la création, lorsque Dieu passe à une étape supérieure dans la création, regardez le processus de Dieu. Dieu a fait une œuvre. On est content. Dieu a dit que c'était bon. Mais Dieu dit, il eut un soir. Il eut un matin. La Bible ne dit pas que il eut un matin et il eut un soir. Parce que dans le raisonnement humain, dans la logique humaine, la journée commence par un matin et ça se termine par un soir. Mais dans la logique de Dieu, il dit que ça commence par un soir. Ça se termine par un matin. Parce que les ténèbres précèdent toujours la lumière. Chaque fois que Dieu veut amener la création à une autre étape, c'est la même chose avec ta propre vie. Chaque fois que Dieu veut t'amener à une autre étape, le même processus va se remettre en place. Tu es venu à l'église, tu as témoigné. Dieu est grand, Dieu est bon. J'étais dans telle difficulté, j'étais dans tel problème. Dieu m'a béni. L'église était contente. On a acclamé, On a adoré Dieu. Mais quelques temps après ton témoignage là, tu tombes encore dans d'autres situations. Ah, mais moi j'avais témoigné, oui. Mais Dieu veut te faire rentrer dans un autre cycle.
Alléluia.
Mais le nouveau cycle de Dieu, il faut que ça commence encore par un hein?
Soir.
Alléluia.
Alléluia. Ça commence par un soir. Maintenant que tu as la révélation, tu sais que le soir n'est pas éternel. Le soir n'est pas perpétuel. Le soir n'est pas le matin. Lorsqu'il y a le soir, le matin arrive.
Alléluia.
Lorsqu'il y a le soir, le matin arrive. C'est tout simplement une question de temps. C'est tout. C'est une question de temps. C'est pourquoi la bénédiction. Dieu a libéré sa parole sur ta vie. Tu l'as reçue. Tu étais convaincu par le Saint-Esprit que cette parole, cette promesse venait de Dieu. Mais non, sache que Dieu va travailler ta vie. Dieu va travailler ta vie. Et dans le travail de Dieu, dans le temps de fécondation, c'est une question de temps. Regardez Jésus. Avant la germination, parce que la troisième étape, c'est l'étape que tout le monde cherche. La troisième étape, c'est ce que tout le monde court de croisade en croisade. C'est-à-dire chercher la bénédiction. L'étape de la germination, c'est-à-dire l'étape de la manifestation physique, palpable, concrète de la parole que tu as reçue de Dieu. Ça, c'est l'étape que tout le monde cherche. Mais cette étape-là, on ne rentre pas comme ça. La manifestation n'arrive pas comme ça. Regardez lui-même le Seigneur. Dieu a libéré une parole. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, Genèse 3:15, il dit, il libère une parole prophétique, il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent.
Amen.
La parole a été libérée. Elle est sortie de la bouche de Dieu. Elle est sortie de la bouche de Dieu pour qui? Pour nous les hommes. Mais cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, vous avez vu le chemin que ça a pris. Depuis le jardin d'Éden, jusqu'à ce que l'ange Gabriel vienne parler à Marie. Vous avez vu le chemin? Entre temps, au temps de Caïn, au temps de Némorode, au temps de Noé, au temps d'Élie, le péché n'était pas sur la terre. Les gens ne péchaient-ils pas? Pourquoi le Sauveur n'est pas arrivé à ce moment-là? Hein? Pourquoi le Christ, puisqu'il vient régler la question du péché, pourquoi il n'est pas venu au temps d'Élie? La parole a été libérée, mais elle a un temps. Dans ce temps-là, Dieu va préparer les conditions. C'est pourquoi, dans le chapitre 12 de la Genèse, on n'a pas compris pourquoi Dieu va appeler, va m'appeler Abraham. Vous pensez que le choix de Dieu était comme ça, par hasard, ou que la chose d'Abraham?
Non, non.
Il va prendre un homme qui est dans une condition qui n'est pas normale. Dieu choisit Abraham. Pourquoi? Parce que la postérité de la femme devait avoir une descendance humaine. Or, dans notre arbre généalogique, ça commence par l'ancêtre ou pas? Il faut qu'il y ait un patriarche, oui ou non? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence. La lignée humaine du Fils de Dieu. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit au départ. Le patriarche. Abraham. Dieu choisit Abraham. Il le positionne dans son plan comme étant le patriarche. Maintenant, Dieu bénit Abraham. Et à travers Abraham, nous avons Isaac. Et après Isaac, nous avons Jacob. Maintenant, à travers Jacob, Dieu appelle à positionner le patriarche. Il faut qu'il y ait les tribus. Et à travers Jacob, il y a 12 tribus. Mais dans les 12 tribus, nous sommes étonnés de constater qu'un choix de Dieu va se porter sur une tribu particulière, la tribu de Judas.
la tribu. Dans la tribu de Judas, il y a des petits villages, des petites villes. Et de toutes les villes de Judas, Dieu a porté ses regards sur une ville appelée Bethléem.
Alléluia.
Michée 5, verset 1er dit, et toi, Bethléem et Ephrata, petit d'entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël étant l'origine vraiment aux temps anciens. Bethléem, la plus petite ville de Judas, est choisie par Dieu. Maintenant de Bethléem, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? C'est là que dans notre voyage de la Bible, vous voyez au temps des juges, la Bible dit qu'il y a encore une famine à Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain, la maison de l'abondance. Mais ce qui est curieux, c'est que Bethléem va être dans la famine. Et c'est là que nous voyons un couple de Bethléem, Élimélec et sa femme Naomi et leur fils, ils vont être de Bethléem et ils vont partir au pays de Moab. La famine à Bethléem faisait partie du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il y avait quelqu'un au pays de Moab qui devait jouer un rôle dans le plan de Dieu. Il y avait quelqu'un à Moab qui devait jouer le rôle dans le plan de Dieu. Ce quelqu'un-là, c'était Ruth. Et Boaz, la lignée de David devait commencer. Parce que dans les villes de Bethléem, Dieu maintenant devait choisir une famille pour la naissance du Messie. Il choisit la famille de David. Et la famille de David commence avec Ruth et Boaz. La famine, la circonstance que Dieu va permettre, c'est pour que l'étrangère puisse venir à Bethléem pour la suite du plan de Dieu.
Amen.
Et dans la famille de David, ça ne s'arrête pas là. Entre nous, vous constatez avec moi, ce sont des temps qui passent, n'est-ce pas? Des générations, des années qui passent. La parole qui a été libérée en Genèse 3:15, elle continue à marcher. Le temps de germination n'est pas encore là. C'est pas parce qu'il y a eu un temps de difficulté dans la vie d'Israël que Dieu avait oublié sa parole. Non. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la parole que tu as reçue de Dieu, Dieu ne l'a pas oubliée. Et dans la famille de David, Dieu va porter ses regards sur Joseph et Marie. Joseph et Marie pour pouvoir être les porteurs qui vont amener la manifestation de la semence de Dieu. C'est dans la famille de Joseph et de Marie que Christ est né. Donc lui-même, notre Seigneur, le processus a été respecté. La parole a été libérée. Il y a eu le temps de fécondation, de préparation. Et le temps de la manifestation. Lorsque Jésus se manifeste sur la terre, ce n'est pas par accident, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y avait des paroles, il y avait des paroles, il y avait des paroles qui avaient déjà annoncé sa venue. Tes ennemis peuvent être surpris. Quand tu vas rentrer dans ta bénédiction, ils seront surpris.
Amen.
Mais ils ne savent pas que sur ta vie, des paroles avaient déjà été libérées.
Amen.
Yes. Et on dit, mais on marche avec toi tous les jours ici.
C'est ça.
Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a des choses étranges comme ces noms de Dieu. Tu deviens une personne mystérieuse. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais comment? On a fait les mêmes choses ensemble, les mêmes difficultés ensemble. Hier même,
on était au maquis ensemble. Mais aujourd'hui là, on entend à la radio une annonce, un décret que tu as eu un poste dans le gouvernement. Comment? La vie de quelqu'un est un mystère. Tu es un mystère. Un mystère, on ne le comprend pas. Si on comprend, c'est que tu n'es plus un mystère. Lorsqu'on parle de l'église, on dit que l'église c'est le mystère caché de tout temps. Or l'église c'est qui? C'est le bâtiment? Non, l'église c'est toi. Tu es un mystère. Il ne faut jamais se moquer de quelqu'un. Ça c'est un conseil que je vous donne dans la vie là. Ne vous moquez pas de quelqu'un. Parce que tu ne connais pas les paroles qui sont sur sa vie. Tu ne connais pas les paroles qui sont sur sa vie. Parce que derrière cette apparence-là, tu ne sais pas ce qui se cache. Ça va germer. Que l'Église dise avec moi, ça va germer.
Oh yes.
Encore une fois, ça va germer. Si au diable, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va germer. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ça va germer. Parce que la parole de Dieu ne peut pas revenir sans effet. Ce que Dieu a dit, il a dit. C'est pourquoi Habakkuk a dit, c'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Dont le temps est déjà fixé. 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 Il dit ceci, si elle tarde, si elle tarde, si elle tarde, si elle tarde. Il a dit si elle tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier? Non. Il faut jeûner? Non. Il faut pleurer? Non. Il dit si elle tarde, attends, 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 attends là. Si le diable te fait croire qu'elle tarde, amen. Si tes voisins te font croire qu'elle tarde, la Bible dit elle s'accomplira certainement. Tu es libre du péché grâce à l'œuvre magnifique et merveilleuse de Jésus-Christ à la croix. Et tous ceux qui sont nés de Dieu ont la bénédiction de Dieu sur leur vie. Et parce que la bénédiction est sur votre vie, vous verrez ces choses s'accomplir. On va se mettre debout, on va prier.
Que tu sembles. il a dit, tu iras de l'autre côté. Tu iras de l'autre côté. Tu iras de l'autre côté, que ce que Dieu a dit sur ma vie s'accomplira.
Amen.
Que tu le confesses, proclame-le avec moi. Satan, démon, sorcier de ma famille, magicien, occultiste, franc-maçon, après cette convention, je crois.
Je crois que c'est un chef.